France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Cinquante ans de théâtre exploré par Jacques Charby. Et pour commencer, une première série, les années 1944-1951. Alors, tous les genres de théâtre sont abordés, d'une façon non exhaustive bien sûr, mais passionnée. Voici Les Trois Coups pour cette série d'émissions diffusée pour la première fois sur France Culture en août 1995 et dont voici le premier épisode.
Théâtre l'autre, une rétrospective théâtrale de Jacques Charby.
Nous nous réjouissons qu'une âme de plus aille grossir le nombre des saints au paradis pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Rends-moi mon argent, Satan !
Un enfant qui peut aimer maintenant sans crainte de jamais rien lire de laid sur son visage d'homme.
D'un théâtre l'autre, le titre que nous avons choisi dit bien l'éclectisme auquel nous voulons nous attacher pour évoquer 50 ans de théâtre en France. Mais bien sûr, nous ne pourrons être exhaustifs tant il y eut de créations à Paris et en province au cours de ces 50 dernières années, compte tenu que nous devrions le faire en 15 heures. De surcroît, nous comptons bien parler des troupes étrangères qui se produisirent en France. Je pense par exemple au Living Theater qui fit événement, au Berliner Ensemble de Bertolt Brecht évidemment, et bien d'autres, le Théâtre des Nations, les Anglais, etc. Le théâtre est multiple, si l'on peut dire. Différents genres de théâtre coexistent et continuent de coexister. Et bien évidemment, nous en tiendrons compte, sans nier pour autant qu'il y aura dans nos choix pas mal de subjectivité. Qu'on nous pardonne. Alors au cours de ce premier volet de 5 fois 1 heure, nous évoquerons d'abord le retour du cartel, surtout le retour de Louis Jouvet qui reprenait possession du théâtre de l'Athénée après les représentations qu'il donnait pendant la guerre en Amérique du Sud. Charles Dullin qui reprenait de plus belle et également Gaston Batty. Hélas, Georges Pitoyev était mort en 1939. Nous évoquerons bien sûr les débuts des jeunes compagnies et surtout le pionnier Jean d'Asté, le théâtre dit de boulevard, la comédie française bien entendu, les jeunes troupes, les centres dramatiques, la décentralisation, les maisons de la culture, le théâtre national populaire de Jean Villard et de George Wilson, le théâtre des nations, etc. Et tout cela, nous le ferons à l'aide d'extraits de pièces. La plupart par leurs créateurs, grâce à la bonne habitude qui perdura jusqu'aux années 75-80 et qui consistait à enregistrer tous les spectacles qui semblaient le mériter. De plus, nous interrogerons un bon nombre de celles et ceux qui participèrent à cette vie théâtrale. Comédiennes, comédiens, auteurs, metteurs en scène, bien entendu, en accordant une place non négligeable aux décorateurs, aux musiciens et aux critiques. Généralement, nous suivrons un ordre chronologique mais sans nous y enfermer trop. Un dernier mot pour demander votre attention et votre compréhension lorsqu'il vous faudra tendre l'oreille pour entendre les documents sonores les plus anciens. Les plus anciens, justement, on va commencer par un de ceux-là, qui date de 1944. Certains ont été bien restaurés, mais enfin, cela fait plus de 50 ans qu'ils ont été enregistrés. Alors pour commencer ce survol zigzagant, si vous me passez l'expression, nous allons écouter Rému. Oui, Rému, dont Orson Welles disait qu'il était le plus grand acteur du monde. L'entrée de Rému à la Comédie française représenta un événement que je vous laisse imaginer. C'était donc, comme je l'ai dit, en 1944, très exactement le 15 mars, le rideau se levait sur le bourgeois gentilhomme, devant un public médusé et curieux, et paraît-il, sur un Rému mort de trac. C'est Denis Dinès et Françoise Seigné qui donnent la réplique à Rému, Monsieur Jourdain, dans les scènes qui viennent maintenant.
Apprenez-moi l'orthographe.
Très volontiers.
Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a la lune et quand il y en a point.
soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par l'exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, je vais à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et il ne faut que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles, ou voix, A, E, E, I, O, O, U, U, j'entends tout ça. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Ha, 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 oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. Ha. Et la voix, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles.
C'est vrai. En vive la science, monsieur.
Et la voix haute,
la voix haute,
se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. L'ouverture de la bouche fait justement oui. Comme un petit rond qui représente un nom.
Oui. Vous avez raison. Oh, la belle chose que de savoir quelque chose, monsieur.
La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient que si vous voulez la faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que...
Oh, c'est admirable, monsieur. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela, monsieur.
Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes.
Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci, monsieur?
Sans doute. La consonne T, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut.
Les belles choses, monsieur.
Left en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du dessous.
Ah, vous avez raison, mon père et ma mère, que je vous veux de mal.
Il est en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement.
Oh, la vil homme que vous êtes et que j'ai perdu de temps.
Mais que vous apprendrez, vous nous expliquerez à fond toutes ces curiosités.
Je vous en prie, en reste, monsieur. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je voudrais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose sur un petit billet que je laisserai tomber à ses pieds.
Oui, fort bien.
Cela sera galant, oui.
Sans doute. Voyons le sens des vers que vous lui voulez. vous les écrire.
Ah non, non, point de vers.
Oui, vous ne voulez que de la prose.
Non, ni prose ni vers.
Il faut pourtant que ce soit l'un ou l'autre.
Pourquoi?
Et par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers.
Il n'y a que la prose ou les vers.
Oui, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers, c'est prose.
Mais comme l'on parle, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, c'est de la prose.
Quoi, quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles, je vais me donner mon bonnet de nuit, c'est de la prose?
Eh oui, monsieur, c'est de la prose.
Par ma foi, voilà plus de 40 ans, j'ai de la prose sans que j'en suce rien, monsieur. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris tout cela. Monsieur, je voulais lui mettre sur un billet, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais je voudrais que cela fût dit d'une manière galante, je suis tourné gentiment.
Eh bien, lui mettre que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences.
Non, tout ça, simplement ce que je vous ai dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Il faut bien étendre un peu la chose.
Mais non, vous dites, je ne veux que ces paroles-là sur le billet, mais tournez à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir de quelle façon dont on peut les mettre.
On peut les mettre, premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, ou bien d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux, ou bien vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir, ou bien mourir vos yeux beaux, belle marquise, d'amour me font, ou bien me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour.
Oui, mais de toutes ces façons, laquelle est la meilleure?
Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour.
Et pourtant, je n'ai point étudié, j'ai trouvé ça du premier. Eh bien, monsieur, je vous remercie de tout mon cœur. Et je vous prie de venir demain de bonne heure.
Je n'y manquerai pas.
Suivez-moi, que j'aille hâte de montrer mon habit par la ville. Ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voit bien que vous êtes à droite.
Oui, monsieur.
Appelez-moi Nicole, je lui donne quelques heures. Ne bougez. La voilà. Nicole!
Letty!
Écoutez.
Oh!
Ça fait rire.
Oh, que vous voilà parti! Oh, mon Dieu!
Mais quel fricot est là, t'as mort, suive-moi!
Mais oui, monsieur, j'en serais bien penché!
Je te baillerai sur le nez si tu es dans la
Ah!
enfant d'appareil qui vient me rincer à mon lit au livre soir du sabre.
Que voulez-vous que je fasse, monsieur?
Je pense pas qu'il n'a pas été à la maison pour la compagnie qui va venir tantôt.
Puisque nous sommes à la Comédie-Française, restons-y un moment et restons aussi avec Molière. Pour écouter une scène du Malade imaginaire, qui fut présentée la même année avec deux grands comédiens. Après Rému, il en fallait également d'une bonne taille, disons. Là, il s'agit d'André Bruno, qui joue le rôle d'Argan, et de Béatrix Dussane, qui joue le rôle de Toinette. Béatrix Dussane était tout à la fois professeure au conservatoire, conférencière, quelle verve et quelle érudition, et comédienne bien sûr. Elle jouait ce qu'on appelait les emplois de soubrette. Écoutons, c'est la scène où Toinette, déguisée en médecin, examine son patient.
Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin.
Monsieur, je vous suis fort obligé, par ma foi voilà Toinette elle-même.
Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise.
Oui, mais monsieur, je suis votre serviteur.
Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Hein? Quel âge croyez-vous bien que j'aille?
Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 25 ou 26 ans.
J'en ai 90.
Oh, 90?
Oui, vous voyez un effet d'escrène, mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux.
Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans.
Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvres, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydrobiliformées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré, à l'agonie, pour vous prouver l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service.
Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi.
Donnez-moi votre pouls. Ah, allons donc. Et que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ouais, ce poule a fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin?
Monsieur Purgon.
Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade?
Il dit que c'est du foie.
Hein?
Et d'autres disent que c'est de la rate.
Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade.
Du poumon?
Oui. Que sentez-vous?
Je sens de temps en temps des douleurs de tête.
Justement, le poumon.
Il me semble que parfois, j'ai un voile devant les yeux.
Le poumon?
J'ai quelquefois des maux de cœur.
Le poumon?
Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.
Le poumon?
Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques.
Ah, le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez, hein?
Oui, oui, monsieur.
Le poumon, il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir.
Oui, monsieur.
Le poumon, vous aimez à boire un peu de vin.
Oui, monsieur.
Le poumon, le poumon, vous dites.
Nous voici au mois de février 1944. Les Alliés n'ont pas encore débarqué en Normandie, et a fortiori, Paris n'est pas encore libéré. Mais le 11 février 1944, Jean Anouilh fait représenter au théâtre de l'Atelier, dans une mise en scène d'André Barsac, sa pièce Antigone, qui fera beaucoup de bruit. En France, à l'étranger, on ne compte plus le nombre de traductions. La pièce a été créée par Jean Davy, Monel Valentin et une jeune débutante du nom de Suzanne Flon. Mais on vous dit toute la vérité, cet enregistrement, nous ne l'avons pas retrouvé. Par contre, nous en avons trouvé un de la reprise, d'une des multiples reprises qui fut faite à Paris. Et celle-là est interprétée par Claire Maffei et Robert Vattier. La scène que nous allons entendre, c'est celle où Antigone attend d'être exécutée après sa condamnation à mort et où elle parle à son dernier vivant, son geôlier.
Alors, c'est toi.
Qui, moi ?
Mon dernier visage d'homme.
Faut croire.
Que je te regarde.
Ça va.
C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure.
Oui, c'est moi.
Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver?
Allez, 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 pas d'histoire. Hein. Si c'était pas vous, c'était moi qui passais.
Quel âge as-tu?
39 ans.
Tu as des enfants?
Oui. Deux.
Tu les aimes?
Ça vous regarde pas.
Il y a longtemps que vous êtes garde?
Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé.
Il faut être sergent pour être garde.
Ah, en principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée. Elle peut pas me saluer.
Ah oui?
Eh oui. Remarquez que généralement, elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde. On a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial. Et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement, comme garde, on a d'autres avantages. Le logement, le chauffage, les allocations. Alors finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent l'active.
Ah oui?
Eh oui. C'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent, il affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, ben, c'est autre chose qu'un sergent-chef.
Écoute.
Oui.
Je vais mourir tout à l'heure.
D'un autre côté, on n'a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire.
Tu crois qu'on a mal pour mourir?
Ah, je peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, j'ai jamais été blessé. Et, d'un sens, ça m'ennuie pour l'avancement.
Comment vont-ils me faire mourir?
Je sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou.
Vivante?
Eh oui. Enfin, d'abord.
Oh, tombeau. Oh, lit nuptial. Oh, ma demeure souterraine. Toute seule.
Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui sont de faction. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée. Mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. L'abandon, la garde. Étonnez-vous après qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent d'active.
Deux bêtes.
Quoi deux bêtes?
Des bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule.
Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler.
Non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un. Quand je serai morte.
Comment ça, une lettre?
Une lettre que j'écrirai.
Ah, ça non, ça pas d'histoire, ça. Une lettre? Comme vous y allez, vous. Je risquerai gros, moi, ce petit jeu-là.
Je te donnerai cet anneau si tu acceptes.
C'est de l'or?
Oui, c'est de l'or.
Vous comprenez, si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Ça vous est égal à vous. Est-ce que je peux... Si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. Alors, de mon écriture, c'est pas pareil.
Ton écriture. C'est trop laid, tout cela. Tout est trop laid.
Vous savez, si vous ne voulez pas, moi...
Si. Garde la bague. Et écris. Mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri.
C'est pour votre bon ami.
Mon chéri, j'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer.
Mon chéri, j'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être
et Créon, plus m'aimer. Et Créon avait raison, c'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur.
Créon avait
raison.
Oh, c'est
notre
terrible.
Petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre.
Oh, mais dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive, moi? Il faut le temps tout de même.
Où en étais-tu?
C'est terrible maintenant à côté de cet homme.
Je ne sais plus pourquoi je meurs.
Pour cette Antigone, la critique fut unanime dans la louange. D'ailleurs, les années qui suivirent Viranouille voler de succès en succès avec ses pièces noires, ses pièces grises, ses pièces roses, c'est ainsi qu'il les intitulait. Elle continue d'ailleurs d'être jouée en France et dans de nombreux pays. Quoi qu'on en pense, ce théâtre est incontestablement un théâtre de virtuoses, mais que certains supportaient mal, comme le rappelle d'ailleurs Bernard Dort, qui cite Jean Villard, qui écrivait en 1955 dans Mes mains tôt, là je cite, « Je ne montrai jamais une pièce d'Anouilh, ni à Chaillot, ni ailleurs. J'ai horreur de ces tartes à la crème. Elles m'empoisonnent. On les croit à l'arsenic au cyanure. En vérité, c'est seulement la chantilly qui a mal tourné. » Fin de citation. Bien entendu, ici, on ne se permettra pas d'abonder dans le sens de Villard, ni de le contredire. Mais il nous faut dire qu'il était quasiment le seul de cet avis, du moins pour ce qui concerne Antigone, que l'ensemble de la critique, à l'instar de Bernard Dort déjà cité, qualifia de phénomène artistique important. Et Jean Anouilh continuait d'écrire et de triompher. En avril 44, donc très peu de temps après la création d'Antigone, au théâtre de la Michaudière, Pierre Fresnay mettait en scène et interprétait Le Voyageur sans bagages avec une musique de Francis Poulenc. En voici un très court extrait.
Vous n'êtes pas ému de penser que derrière cette porte, il y a peut-être un cœur de mère qui bat. Un vieux père qui s'apprête à vous tendre les bras.
Vous savez, j'en ai tellement eu de vieilles bonnes femmes qui se trompaient, de vieillards en erreur qui me frottaient à leur barbe.
Mais des petits-enfants, des bambinos, des bambinis qui attendent leur papa. Oserez-vous dire que vous n'avez pas envie de les embrasser, ces mignons, les faire sauter sur vos genoux? Messieurs Renaud, quel coup épouvantable pour eux. Comment leur annoncer ça?
Vous en charge. J'aurais quitté cette maison dans 5 minutes sans les revoir.
Vous n'avez même pas une commission pour eux?
Non, pas de commission. Si, pourtant. Vous direz à Georges Renaud que l'ombre légère de son frère dort sûrement quelque part dans une fosse commune du front. Il n'a jamais été qu'un enfant digne de tous les pardons. Un enfant qui peut aimer maintenant sans crainte de jamais rien lire de laid sur son visage d'homme.
En cette année 1944 et au début de 1945, on peut vraiment parler d'une floraison du théâtre, du moins à Paris, qu'on en juge. La femme du boulanger de Jean Giono au théâtre des Ambassadeurs, création le 14 mars. Le tombeau d'Achille d'André Roussin, dont nous reparlerons, au théâtre Charles de Rochefort le 16 mars. Moumou de Jean de Lettraz au théâtre du Palais Royal le 24 mars. Au théâtre du Vieux Colombier le 27 mai, la pièce d'un débutant, du moins en tant que dramaturge, « Huis clos » de Jean-Paul Sartre, joué par Tania Balachova, Michel Vitold, Gabi Sylvia, Hergy Chauffard et mise en scène par Raymond Rouleau. Sur les boulevards aussi, on joue le « Dîner de famille » de Jean-Bernard Luc, gros succès. au Vieux Colombier, le 9 décembre, Jean-Baptiste le Mal-Aimé, écrit et joué par André Roussin, aux côtés de son vieux complice Louis Ducreux et de Gabi Sylvia, déjà nommé. À l'Odéon, on joue l'ours de Tchekhov, dans l'adaptation de Marcel Achard. À la Comédie Française, le 18 décembre, c'est la création de la dernière pièce d'Armand Salacrou, Les fiancés du Havre. Au théâtre Sarah Bernard, on affiche à nouveau Tchekhov, mais cette fois avec les méfaits du tabac. Et alors, pour la première fois, Charles Dullin va être Harpagon. Un critique, le rire en coin, osa écrire « Certainement Molière a écrit le rôle pour Charles Dullin ». Il faut dire que Charles Dullin était un homme peu ordinaire, directeur de théâtre, metteur en scène, professeur, mais avant tout acteur et directeur d'acteurs. Il déclarait n'être qu'un artisan au service de l'œuvre dramatique, l'exécuteur testamentaire de l'écrivain. Comme Jouvet, et formé comme lui à l'école de Jacques Copeau, il affirme « Le maître du théâtre, c'est l'auteur ». Nous serons bien entendu amenés à parler davantage de Charles Dullin, mais pour l'heure, écoutons-le dans la fameuse tirade d'Harpagon, que tous les écoliers ont encore dans l'oreille certainement, cette tirade d'Harpagon à qui l'on a dérobé sa précieuse cassette.
« N'est-il point là, n'est-il point ici ? Qui est ? Arrête ! Renvoie mon argent, satan !
Ah, c'est moi. Ah, mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a corrigé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Sans toi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Ah, je n'en fais plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui me l'a pris ? Que dites-vous ? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on était pielleur et l'on a choisi juste le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils et à filles, et à moi aussi.
Charles Dullin. Le plus beau théâtre du monde, c'est un chef-d'œuvre sur quatre tréteaux. Le plus beau théâtre du monde, c'est dans la foi, dans l'amour de notre art, dans une élévation constante de l'esprit qu'il faut le chercher, et non dans un déploiement de richesses inutiles. La plupart des théâtres modernes peuvent en quelques semaines être transformés en banques, en magasins sans grand dommage. Pour moi, ils n'ont pas d'âme. J'aime mon théâtre parce que c'est un vrai théâtre. Allez sur la place d'Ancourt, regardez-le bien, et vous l'aimerez. Comme moi, il est impropre à tout autre service. Il n'a même pas voulu du cinéma. Il a abrité tant d'illustres personnages. Songez aux rois, aux tyrans, aux héros, aux amoureux, aux malandrins de race, aux fées, aux dieux qu'il a pu voir. Ses murs ont étouffé tant de cris, tant de plaintes, tant de sanglots. Il est sanctifié par 1000 souvenirs. Entrez à l'intérieur. N'est-il pas un lieu de sympathie, de tendresse, de cordialité ? Existe-t-il un théâtre comme celui-ci où les mots, quand ils sont bien dits, gardent toute leur saveur et leur sonorité ? N'est-ce pas un beau théâtre que celui où l'on entend parfaitement la pièce ? Le plus beau théâtre du monde, c'est le mien, où l'esprit a triomphé des contingences. Ce n'est pas la machine à descendre des dieux sur la scène, ce sont les dieux qu'il nous faut.
Cher Charles Dullin, et n'oublions pas au passage que Charles Dullin a été le maître de Jean-Louis Barrault, Jacques Dufilot, Jean Villard, Michel Vitold et bien d'autres. Un journaliste a eu un jour l'heureuse idée de suivre Charles Dullin et d'enregistrer les indications qu'il donnait à une jeune comédienne qui devait interpréter une scène de Cinna, de Corneille. Écoutons.
Alors, levez-vous, voulez-vous vous mettre Voulez-vous me prendre simplement ce que je voudrais? Je voudrais que vous me marquiez davantage dans Émilie, ou bien, que vous me marquiez davantage toutes les particularités du rôle. C'est-à-dire que tout, surtout tout ce qui relève du sentiment de l'orgueil, tout ce qui relève de cette espèce de défi particulier qu'il y a dans Émilie. Premièrement. Deuxièmement, que tout en ayant de la violence et la furie du personnage, n'est-ce pas, à de certains moments, elle dégage du charme. Vous comprenez? Parce que si Émilie est simplement une virago, personne ne peut être amoureux d'elle parce qu'on n'est pas amoureux d'une virago. Vous comprenez? Or, on est amoureux d'elle, Sina est amoureux d'elle, Maxime est amoureux d'elle, et non seulement ces deux-là sont amoureux d'elle, mais elle dit que si elle le voulait bien, il y en aurait d'autres qui seraient amoureux d'elle et qui seraient capables de faire ce que eux ne peuvent pas faire. Donc, par conséquent, il faut garder la violence, il faut garder et en même temps donner cette espèce de charme et de particulier dans le personnage d'Émilie, qui le rapproche beaucoup plus, si vous voulez, presque pour, c'est toujours idiot de faire des comparaisons, mais qui le rapproche davantage d'un personnage de Stendhal que d'une, simplement d'une héroïne beuglante, comme on en entend trop souvent dans la tragédie. Alors, je voudrais simplement que vous me disiez le moment où, au premier acte, là, où Émilie s'attendrit en lui disant « Ne crains pas les malheurs de Bruetel-Cassis », n'est-ce pas? Et surtout, donnez-moi bien la musicalité de ce moment-là. C'est très important.
Et l'activité théâtrale continue, riche, dense, variée. En mars 1944, Albert Camus fait représenter sa dernière pièce, « Le malentendu », au Théâtre des Mathurins. Une nouvelle forme, d'ailleurs, du théâtre de l'absurde. La compagnie Grenier-Husneau, qui continuera à faire parler d'elle longtemps, donne au studio des Champs-Élysées « Les gueux au paradis » de Martins et Aubet. Grand succès et découverte ou redécouverte d'un nouveau style hérité des comédiens routiers de Léon Chancerel. Nous vous proposons un court extrait des gueux au paradis.
Que par ce saint baiser, cette chair de péché devienne aussi pure que celle du nouveau-né.
Alléluia, alléluia.
Amen.
Votre bague, que je baisse votre bague.
Mais ne la mangez pas.
Allons, on ne va pas manquer ainsi de choses saintes, vous serez punis.
Vous m'attendez dessus. Allez, maintenant des bûches, on goûte le col des paniers.
Ah, des bouteilles, allons.
Allez, vite.
Allez, et là, nous allons.
Non, je t'ai dit. À boire,
oui. Oui, deux bouteilles et des seaux aussi.
Ici, autour du ventre.
Bon, ça.
Allez, Martin.
Oh, voici une bouteille.
Allez, maintenant tout le monde à genoux, que le grand Saint-Nicolas vous bénisse à la ronde, hein. Allez, curez, vous savez. Allons, à genoux, ça. Et vous aussi, vous le cœur. Peuple, à genoux, voyons. Allez, tout le monde. Et là, aussi. Et bon, Martin,
Eric, attention, regarde, je vois sa sale gueule, là.
Allez, ton père Martin, à genoux, allez.
Tu as frappé cette âme, je t'ai vu. Je te fais procès verbal.
Tu vas procès pour ça, garde, tu n'as pas honte.
Non, t'as du bon.
Faire blasphémer un saint. Garde tes maudits.
Allez, en avant, Nicolette, notre tournée commence. J'enfourche ma montre.
Halte! Au nom de la loi, je fais saisie sur là.
Non, mais es-tu saisi, Martin? Il t'en faut plus que ça. Montre à ce mannequin ce que c'est qu'un saisissement. Feu!
Au nom de la loi!
L'âne sort, suivi de Saint Nicodème et de Saint Nicolas. Les deux femmes restent seules en scène. Vous entendez le klaxon. Et tout à coup, un cri.
Mon Dieu!
L'accident.
Hey! Automobile. Écrasé. Tous les deux. Un grand chenille, tous crèvent aussi. Père! Est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas.
Ah, catastrophe lamentable, une auto les a bigornés. C'est d'autant plus épouvantable qu'ils ne s'étaient pas piqué le nez. Comme ils sont morts de mort subite, sur c'est l'enfer qui les attend. Oh, la Lucifer les invite, et ça n'est pas bien ragoûtant. Mais il n'y a pas faux qu'ils y passent, aux saletesses les protections, les faveurs, les pots de vin, les grâces, enfer vous prend sans exception. Généraux à belle casquette, percepteurs en chapeau melon, si vous avez pas été honnête, vous grillerez dans les poêlons. En vérité, je vous le dis, chacun de nous sur cette terre, fait son enfer, son paradis,
à sa mesure, à sa manière.
Et si vrai comme Pipandel,
chauve d'esprit, maman bénie.
Un autre événement, le mot n'est pas trop fort, d'une toute autre nature, il est vrai, eut lieu à la Comédie-Française en cette fin de saison 1944. Le soulier de satin, de Claudel. Là encore, unanimité de la critique. Je cite quelques extraits de cette critique. Quelle richesse, quelle variété, quelle noblesse, quelle fantaisie, quelle ampleur dans ce vaste oratorio baroque. Un autre dit, c'est l'œuvre grandiose d'un poète et d'un chrétien. Le soulier de satin, donc, de Claudel, avec Marie-Belle, à la Comédie-Française, dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault.
Vierge, patronne et mère de cette maison, répondante et protectrice de cet homme dont le cœur vous est pénétrable plus qu'à moi, et compagne de sa longue solitude, alors si ce n'est pas pour moi que ce soit à cause de lui, puisque ce lien entre lui et moi n'a pas été mon fait, mais votre volonté intervenante. Empêchez que je sois à cette maison dont vous gardez la porte, Auguste Tourière, une cause de corruption, que je manque à ce nom que vous m'avez donné à porter, et que je cesse d'être honorable aux yeux de ceux qui m'aiment. Je ne puis dire que je comprends cet homme que vous m'avez choisi, mais vous, je comprends qui êtes sa mère comme la mienne. Alors, pendant qu'il est encore temps, tenant mon cœur dans une main et mon soulier dans l'autre, je m'en remets à vous, Vierge Mère. Je vous donne mon soulier. Vierge Mère, gardez dans votre main mon malheureux petit pied. Je vous préviens que tout à l'heure, je ne vous verrai plus et que je vais tout mettre en œuvre contre vous. Mais quand j'essaierai de m'élancer vers le mal, que ce soit avec un pied boiteux, la barrière que vous avez mise quand je voudrais la franchir, que ce soit avec une aile rognée. J'ai fini ce que je pouvais faire. Et vous, gardez mon pauvre petit soulier. Gardez-le contre votre cœur. Oh, grande maman effrayante.
Le 11 octobre 1953, au Théâtre du Gymnase, création de la pièce de Drouillon et Kessel, Le Coup de Grâce. Les interprètes, Paul Meurice et Jean Val.
Merci de la promenade, mon commandant. La dernière, je pense. Oh, j'ai rien à dire. Insultes et voix de fée envers un supérieur, en service commandé, zone désarmée, je connais le tarif.
Approchez-vous. Asseyez-vous, nous avons à parler.
Allons-y pour les derniers sacrements.
J'ai plus rien à perdre, moi. Justement, rien à perdre, rien à défendre. Hier encore, vous aviez tout à perdre et tout à défendre. Votre honneur, votre règle de vie, que sais-je. Vous êtes allé à l'extrême limite. C'est fait. C'est fini. Vous êtes en paix avec vous-même, vous n'êtes plus dangereux.
Vous croyez, mon commandant?
Vous ne souffrez même pas d'être en prison.
Oh, la tôle, vous savez. On peut dire que pour moi, c'est une deuxième nature.
Et la mort?
Les 12 fusils, je dis pas. Mais à ce moment-là, il sera trop tard, alors.
C'est bien ça, vous n'avez aucune richesse intérieure, vous n'avez aucune imagination. Vous êtes libre.
C'était tout. Bien, mon commandant. Si vous voulez rappeler Saïd...
Vous m'avez pas compris, vous êtes libre, Bibar, absolument libre. Vous ne retournez pas en prison.
Dites donc, mon commandant, faudrait tout de même pas me prendre pour une cloche. Qu'est-ce que vous êtes en train de manœuvrer? Vous pouvez pas me tuer proprement comme n'importe qui, il vous faut une autre vengeance.
Vous êtes libre, je vous dis, regardez.
Ainsi, les prisons, les juges, les gendarmes, vous avez tout ça dans la main. Vous pouvez disposer tout seul de la liberté des hommes.
Je dispose bien de leur vie.
Ben alors, mon commandant, c'est que vous me jugez d'homme à homme. Vous m'avez compris. Vous avez compris pourquoi hier, enfin, ce que j'ai fait. Je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas vous laisser traiter comme ça par cette môme.
Bibar, vous allez écrire une lettre à Violette.
À qui?
Pour lui dire que vous êtes hors de danger de prison.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites?
C'est à cause d'elle que vous êtes libre. C'est la condition qu'elle m'a posée.
Je comprends pas. Je comprends rien.
Depuis que vous êtes enfermé, j'ai eu tort de m'en vanter. Violette, elle n'a plus voulu me voir. Elle veut une lettre de vous libre. Vous êtes libre, Bibar, vous allez lui écrire.
Alors, alors, mon commandant, vous continuez à vous amuser de moi.
Discutez pas, écrivez.
Comment c'est si pressé? Parce que vous l'avez pas vu de la journée, votre Violette, vous en êtes déjà là.
Je dois partir demain, vous savez.
Non, je vous crois pas. Et jamais je pourrais y croire. Une morue. Une pauvre petite morue se fout de vous pour prendre son plaisir avec moi. Et moi, je vous en taille la gueule. Et de chef à soldat, d'homme à homme, vous avez pas le choix. Vous avez à me faire fusiller, à me faire crever. Et vous le pouvez plus facilement que personne. Et vous me lâchez pour la faire revenir, mais qu'est-ce que vous cherchez, bon Dieu? Non, je vous crois pas, c'est pas possible. J'écrirai, puis on me bouclera de nouveau, je suis tranquille. Mais alors après, vous allez me faire descendre. Un accident, vous y êtes pour rien, le tour est joué. C'est vrai, hein, mon commandant, c'est bien ça. Ouais. Au point où on en est, vous et moi, vous pouvez bien me dire la vérité, qu'est-ce que ça changera?
Non, Violette m'a prévenu, si vous arrive un accident, je le sais, elle ne me le pardonnera pas.
Ainsi, la vie et la mort des hommes, c'est plus vous qui en disposez, c'est une fille.
Je vous prie d'écrire cette lettre.
D'accord. D'accord. Mais d'abord, je voudrais fumer. Donnez-moi des cigarettes. Non, pas Saïd. Apportez-vous-même. J'ai dit vous-même. Vous avez choisi Violette pour patron et moi, je suis le patron de Violette. Vous n'avez pas oublié les allumettes? C'est bien, ça. Intelligent. Facile à dresser. Eh bien, du feu, maintenant. Du papier, une plume. Vous allez voir comment ça s'écrit, une lettre d'homme. Ma petite môme d'amour. Je suis dehors. Tu t'es donné du mal, je sais. Je te le revaudrai au lit. Le vieux obéit au doigt et à l'œil. Il est dressé. Je t'embrasse comme tu m'aimes. Vous avez vu la différence? Ça vous va comme ça? Pas si vite.
Pourquoi?
Je veux lui remettre ça moi-même.
Où?
Ici. Je veux ou je déchire?
C'est bon.
Mars 1945 à la Comédie-Française, représentation des Mal-aimés de François Mauriac. C'était sa seconde pièce. Le public lui fit un grand succès et la critique fut excellente. Deux courts exemples. Voilà où nous retrouvons la marque inimitable de M. François Mauriac. On ne sort pas si aisément d'une personnalité aussi puissante et aussi singulière que la sienne. M. Mauriac a l'intelligence des choses dramatiques. Les Mal-aimés de François Mauriac à la Comédie Française, interprétés par Aimé Clarion et René Faure.
Pardonne-moi, Marianne. Oh, tu ressembles trop à ta mère. C'est horrible pour moi. Tu peux pas savoir comment tu lui ressembles.
Ah, je lui ressemble trop, dites-vous. Eh bien, Élisabeth, elle aussi lui ressemble et à sa manière. Et de nous deux, ce n'est pas moi qui vous ai abandonné ce soir.
Pourquoi me dis-tu ça?
Oui, abandonné pour toujours.
C'est pour me punir, Dieu, tu veux me faire du mal?
Oui, tout à l'heure, j'ai couru jusqu'à l'auto. Si la route n'avait pas été déserte, j'aurais crié. Je me suis accroché à la portière, elle me l'a presque fermée sur les doigts.
Je le savais. J'avais tout deviné avant même que tu aies ouvert la bouche. Maintenant que j'ai la certitude, je suis plus calme. Ils ont pris la direction de Bordeaux?
Non, de Bayonne.
Comment Élisabeth était-elle habillée?
Un manteau, pas de chapeau.
Une valise?
Pas même sa trousse, un sac à main.
Bon, ils ont dû se décider au dernier moment. J'aurais pas beaucoup de mal à les rejoindre. Va réveiller le chauffeur.
Vous oubliez qu'il n'est pas là, vous lui avez permis de coucher au village.
Oui, c'est vrai. J'attendrai son retour. À quoi servirait d'ailleurs de s'aventurer sur les routes en pleine nuit?
Mais qu'est-ce que vous ferez quand vous les aurez rejoints?
Rassure-toi, je résisterai au désir de l'abattre, lui. Le geste de chercher une arme dans ma poche suffira pour qu'il détale.
On a osé faire ce qu'ils ont fait, on ne se laisse pas intimider par un geste.
Retiens bien ce que je te dis. Avant 8 jours, tu verras Élisabeth assise dans cette pièce, occupée à me faire la lecture.
Dire que ça vous enchante, l'idée de cette fille attachée de force à votre chaise longue.
Qui te dit que ça m'enchante? Elle aura beau être là, du moment qu'elle est partie, qu'elle est sortie de ma vie, qu'elle m'a quittée, c'est bien que c'est irréparable, que je l'ai perdue.
Et alors à quoi bon la poursuivre?
Pour qu'elle expie.
Puis Jean Villard présente la pièce d'Eliot, Meurtre dans la cathédrale. Là aussi, nous nous sommes reportés à la critique de l'époque. Voici ce qu'en disait un critique fort prisé, Francis Ambrière. Quant à Meurtre dans la cathédrale, traduit par M. Henri Fluchère et mis en scène par M. Jean Villard, c'est une manière de tragédie par moments lyrique, dont la noblesse, la beauté sont souvent incomparables. L'interprétation a ce grand mérite d'être cohérente auprès de M. Villard, qui incarne Thomas, l'archevêque. Meurtre dans la cathédrale d'Eliot, le 15 juin, au Vieux Colombier.
Songez un instant au sens de ce nom. Père, vous paraît-il étrange que les anges aient annoncé la paix alors que le monde a été sans répit frappé par la guerre et par la peur de la guerre? Vous apparaît-il que les voix angéliques se trompaient et que la promesse a été déception et tricherie? Réfléchissez maintenant, comment notre Seigneur lui-même a-t-il parlé de la paix? Il a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Entendait-il paix au sens que nous lui donnons, à savoir que le royaume d'Angleterre soit en paix avec ses voisins, les barons en paix avec le roi, que le maître de maison puisse compter ses gains pacifiques, son foyer balayé, son meilleur vin dont son ami servi sur sa table et sa femme chantant pour ses enfants. Ces hommes qui étaient ses disciples n'ont point connu de pareilles choses. Ils s'en allaient, voyageant de loin, souffrir par terre et par mer, connaître la torture, l'emprisonnement, la déception, souffrir la mort par le martyre. Que voulaient-ils donc dire? Si vous posez la question, souvenez-vous alors qu'il disait aussi, « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ainsi donc, il la donna à ses disciples, mais pas cette paix que le monde donne. Considérez aussi une chose à laquelle vous n'avez sans doute jamais pensé. Non seulement à la fête de Noël, nous célébrons à la fois la naissance de notre Seigneur, sa passion et sa mort sur la croix, mais le lendemain, nous célébrons le martyr de son premier martyr, le bienheureux Étienne. Est-ce un hasard, croyez-vous, que l'anniversaire du premier martyr suive immédiatement celui de la naissance du Christ? en aucune façon. De même que nous nous réjouissons et nous lamentons en la foi, dans la naissance et dans la mort de notre Seigneur. De même, toute proportion gardée, nous nous réjouissons et nous lamentons dans la mort des martyrs. Nous pleurons pour les péchés du monde qui les a conduits aux martyrs. Nous nous réjouissons qu'une âme de plus aille grossir le nombre des saints au paradis pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes.
Petit événement cette année-là, André Aubet devient administrateur de la Comédie-Française. Le théâtre de la Cité reprend son nom, Sarah Bernard. Dulin y monte Le Roi Lear, admiration générale, si toutefois on excepte un critique d'un grand journal parisien du matin. Ludmila Pitoyev revient en France, elle joue Claudel et Ibsen, L'Échange et Maison de Poupées. À Paris, à cette époque, il y avait 52 théâtres, soit un pour 90 000 habitants. Et il n'y en avait que 51 pour le reste du pays. Mais encore faut-il dire qu'aucun de ceux-là n'ouvrait ses portes tous les jours et il n'y avait pas de troupe permanente de comédiens. Il nous plaît de terminer cette première émission par l'évocation du pionnier de la décentralisation théâtrale, Jean d'Asté. Élève de Jacques Copeau au Vieux-Colombier et qu'il suivit en Bourgogne, il présenta ses propres spectacles dans les villages les plus reculés, dans des granges, sur des places. Il participa à la Compagnie des 15, dirigée par Michel Saint-Denis. C'était lié d'amitié avec le cinéaste Jean Vigo. Il tourna avec lui Zéro de conduite et La Talente. Il tourna aussi avec Jean Renoir, La Grande Illusion, et aussi Boudu sauvé des eaux. Puis il fonde avec André Barsac et Maurice Jacquemont la Compagnie des 4 saisons. C'est vraiment à lui qu'on doit la première expérience de décentralisation à Grenoble et dans sa région avant de s'installer à Saint-Étienne. Écoutons pour terminer très brièvement Jean d'Asté, à qui nous consacrerons davantage de temps au début de notre prochaine émission.
On me demande souvent, quelle est la mission du théâtre ? Je réponds, le théâtre n'a pas de mission, il est. Nécessaire comme l'arbre, il jaillit des profondeurs.
Au cours de notre prochaine rencontre, outre les débuts de la décentralisation, nous évoquerons la grande diversité des créations de 1946 à 1955. De Marc-Gilbert Sauvageon à Marcel Achard, de Jean Giraudoux à Jean Genet et André Roussin, de Garcia Lorca à Armand Salacroux.
C'était D'un théâtre l'autre, une rétrospective théâtrale de Jacques Charby. Collaboration artistique Sonia de Beauvais. Texte lu par Jean-Pierre Darras. Archive de la documentation sonore de Radio France et de l'INA. Documentaliste Rosanne Lelièvre et Pascal Toublanc. Prise de son et mixage Philippe Destrebecq et François Rivalan. Réalisation Claude Chebel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 août 1995. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, deuxième épisode de la série.